Maintenant, nous allons passer à la fameuse chronique des apatrides anonymes, cette fois-ci avec Simon.
Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue à En profondeur, encore une fois. Donc, aux apatrides, cette semaine, on vous parle principalement du Canada, de la politique étrangère, des fresques de Stéphane Dion. Et on va parler peut-être un peu d'Haïti. Et si on a le temps, un peu d'Europe. On vous parle d'Europe, je pense, à chaque chronique, mais c'est pas mal inévitable en 2016, comme dirait notre premier ministre. Quelques niaiseries transfrontalières pour commencer. Donc, depuis la mi-mars, il y a un nouveau visa qui est exigé pour plus de 40 pays au Canada. Donc, ça s'appelle l'autorisation de voyage électronique. C'est un mini-visa qui coûte 7 $ dans lequel ben, les voyageurs qui veulent arriver au Canada doivent mettre leurs informations de passeport, leurs informations personnelles, toutes leurs coordonnées. Il y a des inquiétudes, évidemment, sur la sécurité des données confidentielles auxquelles le gouvernement n'a pas vraiment répondu. Et c'est un peu un triste record. C'est-à-dire que le Canada rejoint le club sélect des pays qui exigent des passeports pour tous les autres pays de la planète maintenant. Pas des passeports, mais des visas, pardon. Il y a peu de pays, je pense, qui exigent tant de la part de personnes qui veulent voyager ici. Il y a quelques exemptions, donc les citoyens canadiens avec une double citoyenneté, les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires, membres d'équipage, etc. Et on prend le soin de préciser aussi qu'il y a une exemption pour Sa Majesté, la Reine d'Angleterre et la famille royale. Donc, je trouvais bien qu'on le précise dans le site d'Immigration Citoyenneté Canada. Sinon, poursuivre un peu dans la même veine avec Stéphane Dion, donc qui est en train de devenir notre préféré pas mal aux apatrides anonymes. Je trouve que c'est un digne successeur quand même des ministres du précédent gouvernement. Donc, après un peu son délire sur la condamnation de la campagne BDS, il fait encore des siennes un peu sur la même question israélienne, israélo-palestinienne. Donc, il veut que l'ONU revoie la nomination de Michael Link, qui est un professeur de droit à l'Université Western en Ontario. Il a été nommé au poste de rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. On ne sait pas exactement de quoi se mêle M. Dion. C'est pas vraiment de ses affaires qui l'ONU va nommer à ce poste-là, qui est un poste, soi-disant, en passant, qui est non rémunéré, qui n'est même pas reconnu comme étant un poste d'employé des Nations unies. Sa nomination à M. Link a été critiquée par des lobbies juifs canadiens et par le Parti conservateur. On lui reproche d'être impliqué dans l'activisme anti-Israël, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'activisme anti-Israël étant pour ces groupes-là de s'impliquer, par exemple, dans la Canadian Palestinian Education Exchange, un groupe qui fait la promotion de la semaine contre l'apartheid israélien. M. Link aurait même poussé l'audio jusqu'à souhaiter que le gouvernement israélien soit jugé pour crime de guerre. Donc, on voit quand même que M. Link connaît son dossier, ce qui est peut-être une qualité pour obtenir ce poste-là. On lui reproche à M. Link d'avoir prononcé des allocutions à des conférences du mouvement One State, qui viserait rien de moins que l'élimination d'Israël, selon les groupes qui critiquent sa nomination. Juste préciser ici, One State, c'est pas un groupe particulier, c'est une option politique qui prône plus ou moins la fusion des États d'Israël et de Palestine pour en faire un seul et même État dans lequel tous les gens auraient les mêmes droits. Je résume très grossièrement, mais à ma connaissance, de toute façon, M. Link ne s'est jamais même prononcé sur cette question-là. Donc, Stéphane Dion ajoute que tout le monde peut postuler directement à l'ONU, que ce candidat-là n'a pas été proposé que par le Canada, puisqu'il ne représente pas les opinions du gouvernement. Et pour répliquer à tout ça, M. Link dit comprendre que sa nomination puisse susciter la controverse et se dit ouvert à discuter de ses positions politiques. On demeure au Canada, les services de renseignement, donc le SCRS, Service canadien du renseignement de sécurité, serait, d'après son directeur Michel Coulombe, intervenu plusieurs fois pour déjouer des complots terroristes. Il dit, M. Coulombe, le SCRS est intervenu à 25 reprises pour stopper les activités terroristes depuis qu'il dispose de pouvoirs élargis conférés par la loi C-51. Donc, 25 complots déjoués par les services de renseignement depuis même pas un an, donc on les félicite. On rappelle que le SCRS peut maintenant enfreindre les lois canadiennes, les chartes et même la Constitution, et que personne, à part le directeur et son personnel rapproché, ne sait exactement quelles sont ces 25 interventions, si le chiffre de 25 est exact et de quelle nature d'intervention il s'agit. J'aimerais rappeler aussi que le comité de surveillance des activités du SCRS n'a pas les ressources supplémentaires et de mandat élargi pour surveiller les nouvelles activités du SCRS, surtout quand il s'agit d'actions de perturbation, d'infiltration et d'activités internationales. le comité de surveillance du SCRS ne peut pas enquêter ou surveiller des organisations internationales qui ne sont pas canadiennes et avec lesquelles le SCRS fait de plus en plus d'affaires conjointes. Puis question de rajouter au nébuleux de l'affaire, le gouvernement chaque année envoie des directives au SCRS sur son comportement général, des objectifs à atteindre. Les dernières directives qui ont été envoyées par l'actuel gouvernement ne seront pas publiées. On a décidé de les garder secrètes. Il y a je crois que c'est l'agence, la presse canadienne qui a fait une demande d'accès à l'information. Elle a reçu des documents, mais ils sont tellement cavardés qu'il y a à peu près juste les articles puis les virgules qu'on peut lire. Les seules portions des directives du gouvernement au SCRS qui sont lisibles sont les passages où on invite gentiment le SCRS à ne pas abuser de ses pouvoirs et à agir avec mesure et discernement. Donc ça, on l'a gardé non censuré. Mais les détails concernant les modalités, comment atteindre ces objectifs-là, donc des dizaines et des dizaines de pages, c'est complètement censuré. Donc, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement demande au SCRS. On demande au Canada, on va aller un peu en Haïti. Le lien entre les deux, c'est que la politique étrangère du gouvernement Trudeau, on semble s'orienter vers une volonté de réengagement envers les casques bleus. Et ça aurait lieu en Haïti, principalement. C'est ce que le Canada vise. Donc, le Canada est ambitieux. Il souhaite prendre le commandement de la mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, qu'on appelle la MINUSTA, et fournir jusqu'à 2000 policiers et soldats. Le Canada fournit actuellement 5 soldats sur les à peu près 2400 que compte la mission de l'ONU, la mission militaire de l'ONU en Haïti. Donc, on parle d'en fournir à peu près 2000 dans les prochaines années, nombre qui permettrait au Canada de prendre le commandement de la force militaire, de la force d'occupation en Haïti. Actuellement, le pays qui a le plus grand contingent militaire, c'est le Brésil. Et donc, le pays qui a le plus grand nombre de soldats qui sont déployés en Haïti est automatiquement le pays qui prend le commandement de la mission. Donc, le Canada souhaite tasser le Brésil, amener plus de soldats que le Brésil et prendre le commandement de la MINUSTA, la mission militaire dite de stabilisation des Nations unies en Haïti. Donc, je vais citer encore une fois Stéphane Dion, notre nouvelle mascotte. Le gouvernement planifie son retour. Haïti a été évoqué, l'Afrique aussi, mais il faudra surtout répondre aux demandes urgentes de l'ONU, car il y en a toujours. Évidemment, il y a une résistance qui s'organise contre ça. Il y a un texte qui a été signé récemment qui est très éloquent, très pertinent par Renel Exantus et Ricardo Gustave. Ils sont du regroupement des Haïtiens de Montréal contre l'occupation d'Haïti. On dénonce le choix du gouvernement libéral de vouloir renforcer l'occupation militaire en Haïti. On rappelle que la réelle stratégie derrière tout ça, selon les signataires du texte, c'est que, bon, suite à une discussion avec Ban Ki-moon lors de sa visite à Ottawa, le commandement de la MINUSTA viserait à permettre au Canada de récupérer son siège perdu au Conseil de sécurité, au prestigieux Conseil de sécurité, même, il faudrait dire. Par contre, c'est ça. Pour le REMONCO, donc le regroupement des Haïtiens de Montréal contre l'occupation d'Haïti, il s'agit surtout du prolongement de la politique de domination des puissances impérialistes en Haïti. On rappelle que le Canada, les États-Unis, la France ont de tout temps pris part aux pratiques de domination et d'exploitation d'Haïti. On rappelle, par exemple, dans les années 60-70, des minières canadiennes qui ont exploité des mines de cuivre dans le nord d'Haïti sans aucune redevance et retombées locales et économiques sans aucun respect de l'environnement et des lois du travail, par exemple. Cette exploitation a eu lieu sous le gouvernement sanguinaire des Duvaliers que le Canada a soutenu à coups de millions de dollars. On nous rappelle aussi que le Canada était en première ligne dans le coup d'État américain en 2004 qui a servi à introduire, sous le couvert d'une mission de stabilisation des Nations unies, les forces militaires impérialistes en Haïti. Puis depuis cette date, on rappelle aussi certains exploits de cette mission militaire-là en Haïti, des massacres dans les quartiers populaires de Port-au-Prince, des viols par des militaires sur des adolescentes un peu partout dans le pays. Il n'y a jamais eu aucun procès par rapport à ça, puisqu'aussitôt qu'une plainte était formulée, on renvoyait les militaires chez eux, ce qui permettait de les soustraire à la justice locale. On rappelle l'introduction dans le pays d'épidémies telles que le choléra. Ça peut ressembler peut-être à des théories du complot, mais c'était quand même relativement bien documenté. Il y a eu des activités de militaires et de leurs sous-traitants, disposition de déchets de matières fécales dans des points d'eau. Tout ça, ça a été assez... c'est bien documenté, donc beaucoup peuvent affirmer sans se tromper que ça a pu avoir les conséquences sanitaires qu'on évoque ici. Et évidemment, l'ONU refuse systématiquement de dédommager les victimes du choléra. Et il n'y a aucune... toutes ces exactions criminelles-là ont été commises en toute impunité, sans aucune condamnation formelle de la part des Nations unies. Donc, le regroupement des Haïtiens de Montréal contre l'occupation d'Haïti conclut que la rhétorique humanitaire de Trudeau ne peut dissimuler son projet qui est à la base de cette décision, c'est-à-dire continuer l'expropriation des richesses naturelles haïtiennes, l'exploitation sauvage de la main-d'œuvre ouvrière locale. Et évidemment, on ne s'en cache pas, c'est dans le but d'obtenir un siège au prestigieux Conseil de sécurité des Nations unies. Personnellement, je ne sais pas si Trudeau est conscient de sa rhétorique humanitaire, dans sa rhétorique de tout le mal que l'occupation militaire a pu faire à Haïti. Donc, il y a peut-être un peu la même image romantique que la population entretient à l'égard des casques bleus. Donc, on va remercier le Romanco de nous en informer et d'informer notre bon premier ministre. Je vous parlerai de l'Europe en une seule phrase, je pense, parce que l'émission achève. Il y avait la chronique de Marie-Ève il y a deux semaines qui expliquait bien le détail de l'entente entre l'Union européenne et la Turquie. Ça commençait aujourd'hui, officiellement, les déportations. Alors, on va suivre ça dans les prochaines semaines, vous en parler, c'est quand même assez important. Par contre, juste dire un détail, Amnesty International dit avoir des preuves comme quoi le gouvernement turc expulse des gens vers la Syrie. Ce qui pourrait constituer peut-être un crime de guerre, on dit que c'est des centaines par jour, et les pays européens seraient au courant, n'en disent rien, donc seraient un peu complices de cette activité plus ou moins criminelle. Donc, je vous laisse là-dessus. Dans deux semaines, Mathieu sera là pour une nouvelle chronique des apatrides. On poursuit sur les mêmes enjeux habituels, et bonne soirée à tout le monde.
Merci beaucoup. Alors, vous entendiez Simon des apatrides anonymes qui faisait cette chronique que nous recevons régulièrement. Avec grand plaisir et grand, surtout grand intérêt.